10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et c'est l'islam au présent tous les samedis sur Beurre FM. Une heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun. Comment ça va, imam Abdelali?
Ah bah, alhamdoulilah, Philippe. Salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bah écoute, ravi d'être avec toi encore une fois, et pour une énième fois, Inch'Allah, pour longtemps encore, pour parler, rencontrer nos auditeurs et leur parler de l'islam au présent.
Voilà. On avait une discussion sur les dettes hors antenne, mais on fera une émission sur les dettes un jour.
Ouais,
ça, c'est important.
Ouais, c'est intéressant.
Parce que je voulais connaître justement le statut des agios. Quand on a des agios à la banque, est-ce qu'on considère que ce sont des intérêts et qu'avec un taux d'usure ou pas?
Forcément, on va dire que oui, puisque tu n'as pas le choix. Quand tu as des agios, c'est que tu
quand
as dépensé.
Quand tu as découvert, voilà.
Voilà, tu as dépensé plus que ce que tu avais sur le compte, donc tu te retrouves avec des agios. Alors, soit c'est volontaire, là, c'est illicite. Dans l'islam, t'as pas le droit. Mais si c'est malgré toi, t'as pas le choix. T'as eu des contraintes, par exemple,
On parlait d'amende.
D'amende, choses qui ont été
un retard d'impôt,
tout ça. Et bien que finalement, après, tu te retrouves avec un compte déficitaire et donc la banque te réclame des agios parce que tu as dépassé le pourcentage autorisé
de découvert
autorisé.
Ouais.
Eh bien, tu n'as pas le choix, Baral. Tu essayes de faire au mieux, le plus rapidement possible, pour combler cette dette, pour éviter d'avoir à payer trop de ces impôts là. Mais là, c'est la banque qui commet la faute, c'est pas toi. Je parle par rapport à la religion.
Oui, mais
la faute religieuse.
Voilà, mais comme vous payez,
la banque n'est pas musulmane, donc elle n'est pas concernée par les préceptes.
Mais comme vous payez des intérêts, ça peut être assimilé à une forme d'usure.
Alors attention, l'usure, quand on parle de l'usure, il y a celui qui consomme et celui qui fait consommer, c'est-à-dire qui donne à consommer à l'autre. Hein, bien sûr, celui qui consomme, c'est beaucoup plus grave que celui qui donne à consommer. Quand tu fais un crédit que tu donnes à consommer à la banque, c'est pas toi qui consomme, c'est la banque qui consomme les intérêts que tu vas rembourser avec le capital que t'as emprunté. Voilà. Donc là, c'est pas pareil. Même si le prophète a dit wahum sawa, il a dit qu'ils étaient dans le même bateau quant à la responsabilité du péché. Eh bien, en gros, nous on décourage. Moi, en tout cas, je suis premier à décourager les musulmans à se retrouver endettés par la banque et à payer des intérêts. D'abord, c'est humiliant.
Tous les mois sont à découvert.
Ouais,
c'est quand même beaucoup de gens.
Il faut beaucoup plus réfléchir comment gagner de l'argent que de comment éviter à se retrouver dans ce genre de situation. Muslim yahris ala an yuhsin at-tadbir. Il doit avoir cette capacité de pouvoir éviter de se retrouver dans ce genre de situation et de trouver le moyen de gagner de l'argent dans le halal. Et c'est vrai que c'est compliqué. Ça reste un effort énorme. On devra, inchallah, en parler un jour de cette notion, comment acquérir l'argent dans le halal et la complexité qu'on a aujourd'hui, justement, à gagner. Aujourd'hui, ce qui fait gagner de l'argent le plus, comme par hasard, ce sont les choses les plus haram dans l'islam, les plus interdites en islam, hein, l'usure, le proxénétisme, les jeux de hasard, hein, casino, les tiercés, les PMU, l'auto, tout ça, l'alcool, la drogue. Hein, tout ça, la drogue déjà, on est bien d'accord.
Ouais,
c'est énorme. Mondialement,
la drogue. Les armes, la prostitution. L'arme,
voilà. Tout ça, c'est haram. Comme par hasard, tout ça, c'est haram.
Et les crypto-monnaies?
Les crypto-monnaies, est-ce que ça fait gagner de l'argent? Je sais pas. Je sais pas.
Ça dépend des semaines.
Écoute-moi, la question de la crypto-monnaie, je pense qu'il faut la poser à des spécialistes en finance islamique qui analysent le produit financier en tant que tel, est-ce que c'est un objet de spéculation volatile, c'est-à-dire qui est fantôme, ou est-ce qu'il est vraiment réel, est-ce qu'il est simplement basé sur son pouvoir fiduciaire, ou est-ce qu'il est vraiment, il a une valeur réelle. Ça, c'est, moi, je suis pas compétent.
Mener l'enquête, interroger les savants, parce que alors, en ce moment autour de moi, tout le monde parle des crypto-monnaie, donc voyez.
Charles, on pourrait inviter un jour. Le mieux, c'est d'inviter, par exemple, Boubkar, Ajdir. Ouais, tu te rappelles, on en a des spécialistes qui peuvent nous parler de tout ça. Et à ce moment-là, on tranchera, effectivement.
Allez, c'était une petite
parenthèse.
Parenthèse, oui, parce qu'on en parlait hors antenne. Vous avez décidé, Imam Abdelali, de parler ce matin de la mer. Pourquoi la mer? Qu'est-ce qui vous inspire ce sujet?
Ma femme aime beaucoup la mer.
Un temps de Bretagne.
Voilà, ma femme aime beaucoup la mer, les mouettes, les animaux qui sont au sud de la mer, qui vivent dans l'air, mais qui sont à la fois sur terre, sur mer et dans l'air. Tout ça permet de quand on est, c'est vrai, de méditer, de se ressentir mieux, de regarder, pouvoir regarder à l'horizon. Parce qu'aujourd'hui, quand tu habites, par exemple, comme toi à Paris, et que ton horizon, il est à 3 mètres devant toi, parce qu'il y a un béton devant toi, c'est pas forcément agréable. Alors que quand tu es quelqu'un de dehors et que tu peux observer l'horizon à plusieurs kilomètres autour de toi, c'est parfois beaucoup plus, je sais pas moi, beaucoup plus agréable. Alors, je parle, bien entendu, de les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y en a qui aiment le béton, il y en a qui aiment la...
Il y en a qui aiment la mer.
Il y en a qui aiment l'espace,
la les montagnes,
la place, ouais. qui est beaucoup d'espace autour d'eux, et chacun, il y a pour ses goûts. Hein.
Alors, combien le Coran parle-t-il de fois de la mer ?
Il en parle exactement 25 fois. Hein. Il utilise le terme bahr dans le Coran 25 fois. Et cette utilisation dans le Coran, elle est liée soit à des faits, à des histoires, histoires liées à des prophètes. Par exemple, l'histoire de Moïse, qui Dieu, il a ouvert la mer pour qu'il puisse passer et qu'il puisse faire fuir la tyrannie de Pharaon. Et ensuite, le Pharaon qui passe derrière lui, qui se fait engloutir par la mer. Donc ça, c'est parmi les récits du Coran qui parle de la mer, mais aussi notamment Moïse qui, lui, voyageait, était un marin à un moment donné, était à la recherche de cet homme à qui Dieu... avait accordé un savoir mystique ataynahum min ladunna ilma fantalaqa yani fa uhina ila Musa an idrib bi'asa. Non, ça c'est le verset justement de la l'ouverture de la mer, mais le verset où est-ce qu'il parle de son voyage qu'il a eu lieu, qu'il a fait dans l'eau. Nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, dans la sourate, effectivement la grotte, la caverne. Mais aussi quand il parle de gens qui avaient des bateaux, qu'ils avaient un bateau sur l'eau, et il a utilisé ce bateau pour traverser la mer, et à un moment donné il décide de crever le bateau et de faire couler d'une certaine manière, non, de dégrader le bateau. Et c'est qui décide de faire ça? C'est El Khader, c'est-à-dire l'homme à qui Dieu avait donné ce savoir mystique. Et Moïse était étonné, il a dit, mais pourquoi tu répands le désordre et tu dégrades le bateau de gens qui nous ont offert l'hospitalité et gracieusement de nous faire traverser la mer. Et toi, tu décides de dégrader leur bateau. Bon, lui, il n'avait pas compris que Dieu avait donné un savoir infuse à cet homme qui allait deviner que plus tard, sur le port, le roi allait réquisitionner tous les bateaux en bonne, c'est-à-dire valide, qui étaient utilisables, et que grâce au fait qu'il avait dégradé le bateau, qu'il avait fait un trou dans la coque, eh bien, les soldats du roi n'ont pas pris le bateau à ces pêcheurs. Et grâce à cela, ils ont pu continuer à pratiquer la pêche. Et c'était le seul bateau qui n'avait pas été réquisitionné par le roi. Et tous les autres bateaux avaient été récupérés et volés, spoliés par le roi. Et grâce à cela, finalement, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que, certes, il a crevé la coque, ça a réclamé des réparations, mais en contrepartie, le bateau, au moins, il était là. Il n'avait pas été réquisitionné. Donc, c'était un moindre mal. Donc, en gros, il y a énormément de situations où est-ce que Dieu parle du Coran, de la mer, comme une scène liée à des faits historiques. Il y a aussi, Dieu parle du Coran pour parler de sa grandeur, de sa puissance, de son omniscience. Par exemple, il dit dans le Coran, dans Surat al-Kahf, encore une fois, dans la fin de la Surat la caverne, si tu utilisais toute l'eau de la mer, l'eau comme encre, pour pouvoir rédiger les noms et les mots que Dieu parle, que dit Dieu, hein, eh bien, l'eau de toute la mer serait intégralement, épuisée, avant même que les mots de Dieu se terminent. C'est-à-dire que les noms de Dieu et les mots de Dieu sont beaucoup plus nombreux que si tu écrivais tous ces mots-là avec l'eau de toute la mer. Hein, imagine 72% de la surface de la Terre est aujourd'hui couverte d'eau. Eh bien, que si toute cette eau-là était utilisée pour écrire les noms et les mots de Dieu, eh bien, la nafid al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Avant même que s'épuisent les noms de Dieu, eh bien, l'eau de la mer aurait été épuisée. Walau ji'na bi mithlihi madada. Et même si on ramène l'équivalent pour essayer d'arriver à écrire tous les mots de Dieu. Donc Dieu, voilà, utilise la mer pour parler de lui, de sa grandeur, etc. Dieu aussi utilise le Coran, la mer pour parler de ses bienfaits, c'est-à-dire de ce qu'il nous a accordé. Il parle des bateaux qui filent sur l'eau. Il utilise deux termes. Il parle de l'jawari, walahu l'jawari fil bahri kal a'lam. Jawari, ça veut dire des bateaux qui voguent et qui se filent sur l'eau. Yajri, yani jawari, ça veut dire, c'est le pluriel de al-jariyatu allati tajri fil bahr, qui est capable de voyager et de circuler sur l'eau. Et il utilise le terme aussi al-fulk. Al-fulk, ça veut dire l'arche. Un fulk, c'est un arche, c'est-à-dire un paquebot, un grand bateau. On utilise souvent le mot al-fulk. Par exemple, le fulk de Noé, c'est le terme fulk qui est utilisé dans le Coran.
Pour arche de Noé.
Pour Arche de Noé, effectivement. Et donc, il parle de ce bienfait qu'Allah nous a accordé en nous donnant la possibilité d'avoir des bateaux qui sont malgré très 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 lourds, peuvent voguer sur l'eau et être supportés par le poids de par l'eau de la mer. Et donc, à maintes reprises, Allah Azza wa Jal nous parle et il dit « Alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah » N'as-tu pas vu comment ces grands bateaux qui filent sur la mer par les bienfaits de Dieu, surat Luqman, par exemple, Dieu dans le Coran, dans surat Al-Hajj, il dit Sakhara lakum ma fil ardi wal fulki tajri fil bahri bi amri. Il a mis à la disposition tout ce qu'il y a sur terre et les bateaux qui filent sur la mer par son ordre, par son décret. Voilà. Aussi, il précise comment lui-même il est au courant de tout ce qu'il y a dans l'eau et tout ce qu'il y a sur terre. Que son omniscience est tellement importante qu'il sait tout ce qu'il y a à la fois dans l'eau, tous les animaux qu'il peut y avoir dans l'eau, quelle que soit la profondeur dans laquelle se trouvent ces créatures, ou que celles qui circulent sur terre. Il dit dans le Coran, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ et il sait tout ce qu'il y a dans la terre et dans l'eau et dans la mer. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا même la moindre feuille des arbres qui tombent des arbres en automne, par exemple, chaque feuille qui tombe des arbres, eh bien, il en est informé. وَلَحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ et même une graine qui se trouve dans l'obscurité de la terre, à l'intérieur de la terre, wala ratbin wala yabisin, qu'elle soit un endroit sec ou humide, illa fi kitabim mubin, sans qu'il soit inscrit dans un livre, dans un support du destin bien évident. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la mer et nous dit que ça fait partie de ce que j'ai mis à votre disposition, notamment de pouvoir vous nourrir de la chair, etc. Mais ça, c'est un autre sujet.
Il n'y a pas de sourate la mer, hein?
Non, on n'a pas sourate al-Bahr. Non, on n'a pas de sourate al-Bahr. On a beaucoup de sourates, comme par exemple sourate al-Rahman qui parle de la mer. On a beaucoup d'animaux, de sourates, parce qu'on a sourate les cavernes, avec Moïse qui parle d'un personnage qui utilisait souvent la mer, et qui était souvent en rapport avec la mer, et dont les récits sont en rapport souvent avec la mer.
Alors, d'autres choses que le Coran dit sur la mer, peut-être, Imam Abdelali, avant de passer à autre chose.
Dieu parle de la mer. Écoute,
il faut expliquer que l'imam lit. C'est vrai que en même temps qu'il parle, il lit. Donc,
alors voilà, je
comme il a un tout petit écran.
Ça va, je m'en sors. Vous inquiétez pas. Par exemple, il parle des gens des navigateurs, des marins, de ceux qui sont dans la mer et qui à un moment donné sont submergés par des tempêtes. C'est que dans la mer, il y a souvent des tempêtes. Et ça, c'était une hantise des Arabes. Pourquoi ils n'osaient pas aller s'aventurer dans les mers? Parce qu'ils avaient peur des tempêtes et donc finalement que leur bateau soit englouti par la mer. Et le Coran en fait part. Hein. Il parle souvent. Par exemple, il dit وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهِ que à ce moment-là, quand vous êtes dans l'eau et que vous allez bientôt être englouti par la mer, que vous allez mourir, c'est seulement à ce moment-là que vous vous rappelez que vous avez un Dieu, que vous dites Oh my God, hein, Oh mon Dieu, sauve-moi de la.
Les Arabes ils disaient pas Oh my God. Hein.
Ouais, mais bon, c'est une façon de parler. Mais oui. C'est pour que les auditeurs comprennent.
C'est pour nos auditeurs internationaux, mais.
Exact. C'est vrai que c'est à ce moment-là souvent que là on oublie les statues, on oublie les idoles, on oublie les tels et tels pouvoirs, et là on s'en remet à Dieu parce qu'on sait qu'il y a que lui à ce moment-là qui peut véritablement sauver notre entrepôt. Et à maintes reprises, hein, le Coran est explicite en la matière. Il parle de zolomat el barri wal bahr, de l'obscurité de zolomat en thalath, de l'obscurité de trois obscurités, de etc. Donc la mer est une hantise chez les Arabes, parce que c'est à l'origine, ça n'était pas des marins. Hein, les premiers, les pionniers de l'islam étaient d'abord des nomades, des bédouins, des navigateurs sur terre, qui naviguaient sur des bateaux qu'on appelait les chameaux. Hein, on les appelait safina, hein, le terme même, souvent, le surnom, un des surnoms du chameau, c'est le bateau. Pourquoi? Parce que si tu perds ton bateau en plein milieu du désert, c'est comme si tu perdais ton bateau en plein milieu de la mer. Mmh. C'était la mort assurée. Hein, quand t'es dans le désert et que tu perds ton chameau, ton chameau, par exemple, tu fais une ruade et il se sauve et qu'il te laisse tout seul en plan au milieu du désert, tu peux être sûr que tu vas mourir.
Alors, safina, ça veut dire quoi?
Safina, c'est bateau.
Bateau.
Le mot safina, ça veut dire bateau.
D'accord.
Et donc, la safina du désert, c'est le chameau. Donc, les Arabes ne connaissaient de ce danger, que seulement celui de la qui était de la terre, c'est-à-dire du désert. Celui de la mer, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir bien plus tard. On en reparlera tout à l'heure si tu veux bien.
Bien, c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM. Je rappelle que si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, c'est très simple, vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors, on parle de la mer ce matin avec l'imam Abdelali Mamoun. Et nous avons Dalila qui est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Dalila.
Oui, bonjour.
Bonjour, Salam.
Alaykoum Salam. Je me permets de vous appeler en fait. Moi, j'ai une question plus de couple en fait. Je ne sais pas si je peux la poser. Étant maman d'une fille de 4 ans et demi, je suis mariée j'ai fait la halal avec un homme. Mais depuis 8 ans, en fait, nous ne vivons pas ensemble. Nous vivons chacun dans un logement bien distinct. Et ce n'est pas ma volonté.
Vous vivez chacun dans quoi, dans?
Chacun, nous avons un logement.
Un logement. Je pensais que c'est une chambre.
Non,
vous vivez vraiment, vous avez séparation des corps. Vous n'êtes pas mariés civilement.
Exactement. On a juste fait la halal. Et moi, en fait, je veux que les choses avancent. Là, ça fait des années qu'on débat, qu'on essaie de trouver des solutions. Et lui, en fait, moi, j'étais propriétaire, lui était propriétaire. J'ai vendu mon bien, je devais m'installer chez lui. Et en fait, comme il a déjà des enfants d'un premier mariage, moi, un enfant d'un premier mariage, il y a la question, vous savez, des biens. Donc, j'ai accepté un contrat, il n'y a aucun souci pour passer chez le notaire. Mais à chaque fois, il y a toujours il recule. Et là, je perds patience. Et au bout de 8 ans, là, je ne sais plus quoi faire.
L'enfant que vous avez, c'est son fils à lui aussi. C'est son fils.
C'est ma fille, voilà.
Non, oui, mais c'est sa fille.
C'est l'enfant qu'ils ont ensemble.
Voilà, c'est lui le père. Il est le père de votre enfant.
Ah oui, c'est le père. C'est le père, oui.
D'accord. Père. Et vous perdez patience parce que vous souhaitez divorcer.
Voilà, exactement. Ça y est, si vous voulez, il y a eu trop de. J'essaye, je prends sur moi, je patiente. Tout mon entourage, c'est pas mon père.
Excusez-moi, mais malgré que vous soyez séparés, est-ce qu'il vous arrive parfois de consommer des relations conjugales?
Oui.
Donc, c'est-à-dire que vous allez le voir ou il vient vous voir à la maison et vous êtes marié et femme, simplement vous vivez séparément. Comme c'est ce qu'on appelle en arabe le zawaj el misyar, le mariage du misyar. Le zawaj misyar, c'est un mariage où les deux conjoints vivent séparément. L'homme n'assume pas les besoins de sa femme, mais il n'a aucune autorité sur elle. Voilà, en gros, c'est les deux clauses qui sont ajoutées dans un mariage classique. Le zawaj misyar, c'est monsieur n'assume rien, mais n'impose rien. Voilà. Chacun a la liberté, mais en même temps, ils ne consomment de relations que seulement ensemble. C'est-à-dire que comme ils sont mariés religieusement, ou même civilement, ils auraient pu marier civilement et vivre séparément, c'est un zawaj misyar. Eh bien, madame, vous êtes sa femme, vous êtes son épouse, et si vous voulez être libérée de cet homme, vous lui demandez tout simplement de prononcer la déclaration de répudiation, qui dise tu n'es plus ma femme, tu t'alerte, voilà, et qu'à partir de là commence votre période de viduité de 3 mois, de 3 cycles menstruels. À l'issue de ces 3 cycles menstruels, donc 3 mois à peu près, eh bien, vous pouvez effectivement vous engager avec un autre homme et de décider de vous marier avec une autre personne.
D'accord. Alors, voilà. Je ne connaissais pas du tout ce terme de zawaj nuptial. Est-ce que c'est...
Mais ça, c'est ce que vous vivez.
D'accord, mais c'est pas quelque, c'est quelque chose qui est pas, enfin, qui est pas normal dans notre religion.
Mais madame, c'est vous qui l'avez accepté. C'est le problème, c'est que si vous aviez, attendez, si vous aviez dit moi, je vis toute seule, donc je vis une injustice parce que je suis une femme suspendue, je suis ni mariée ni divorcée. Et ni je profite du mariage et ni je peux me remarier parce que mon mari m'a suspendu, m'a quitté, il a abandonné. Là, à ce moment-là, je vous aurais dit, madame, à ce moment-là, si on fait constater ça avec des preuves, où monsieur tout simplement reconnaît qu'effectivement, il a quitté le domicile conjugal et qu'il n'assume rien, on prononce, l'imam peut prononcer l'annulation du mariage religieux. D'accord ?
D'accord.
C'est pas compliqué. D'accord. Mais là, non, vous avez accepté la situation en consommant avec lui. Donc vous, ça veut dire que vous le reconnaissez comme étant votre mari. Oui, vous comprenez? Donc c'est ça ce qu'on appelle messiar. Et il est messiar parce que vous l'avez accepté et que vous vivez, vous assumez seul vos besoins. Lui, pareil, s'occupe de ses trucs à lui. Et que quand vous avez envie, besoin l'un de l'autre, vous vous rencontrez chez lui ou chez vous et vous consommez des relations conjugales. Halal. Attention, là, on parle bien de relations basées sur un mariage. Et vous êtes fidèles l'un à l'autre et personne ne va aller voir ailleurs. Hein, ouais. Ça, c'est un zawaj messiar classique, connu, ça est de plus en plus répandu, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent garder leur liberté tout en étant dans la possibilité de pouvoir combler un besoin affectif ou sexuel. Donc, elles vont garder un lien avec leur mari tout en étant loin de lui, c'est-à-dire en ayant une totale autonomie vis-à-vis de leur conjoint. Ça, c'est un choix. Il y a des femmes qui aiment ça, ou il y a des hommes qui aiment vivre. Il y a des couples, donc finalement, qui aiment ces processus. Il est interdit chez certains savants, il est autorisé chez beaucoup d'autres. Le grand cheikh Al-Khardawi a fait une fois un article que j'avais lu à l'époque qui s'appelle le journal Al-Alam Al-Islami, le monde musulman, dans lequel il disait en gros Zawaj al-Messiar Mubah wala ansahu bihi. Il dit qu'il est autorisé mais qu'il ne le conseille pas. Hein, puisqu'en principe, un couple est fait pour consolider.
Mubah,
ça veut dire autorisé.
Autorisé.
C'est-à-dire ce qui est licite, ce qui est autorisé. Mubah, ça veut dire licite.
Mais il n'y a pas d'engagement, en fait, dans cette...
Enfin, voilà, c'est... Non, justement, c'est que normalement, le mariage est un engagement.
Mais oui, mais
Le seul engagement qui est demandé, c'est la fidélité.
Il n'y a pas d'engagement.
Voilà, mais sauf s'il y a un qui est engagé, c'est la fidélité. C'est-à-dire que lui ne consomme qu'avec elle et elle ne consomme qu'avec lui. Hein? Sauf si lui est bigame ou polygame. Il a une femme en Algérie, il vient en France... il va voir sa femme avec qui il est marié en France, puis après il rentre en Algérie, consomme avec sa femme avec qui il est en Algérie. Ça arrive, hein, c'est possible. Voilà, c'est un choix. Et en France, c'est pas autorisé. Hein, la bigamie, je rappelle que la polygamie et la bigamie sont proscrits en France. Mais à l'échelle internationale, si vous avez une femme dans un pays puis une autre dans un autre, et que dans ces pays-là, il n'est pas interdit de pratiquer ce genre de choses, eh bien, l'islam ne l'interdit pas. Et à partir du moment où c'est autorisé dans le pays concerné.
D'accord. Imam, j'ai une question.
Attendez, donc vous souhaitez vous séparer de votre mari?
Si vous voulez, c'est que je l'ai pas accepté. On l'a accepté par défaut parce que voilà, en fait, j'étais propriétaire à l'époque. Je venais d'acheter et en fait, il a fallu que je vende et on avait le projet depuis le départ de vivre ensemble. Sauf que ça s'est jamais fait. Il y a eu à chaque fois des séparations, ça s'est jamais fait. Et donc c'est pas quelque chose que j'ai accepté et que lui-même il se plaint de cette situation. Sauf que au moment de vivre ensemble, j'ai quitté mon logement, je me suis retrouvée avec aucun logement, avec mes enfants, mes deux enfants. Il a fallu que je me retourne vers une agence privée parce que il a commencé à parler des loyers, des choses. Vous voyez ?
Alors attendez, madame. Alors si j'ai bien compris, les relations que vous avez avec votre mari n'était pas dans l'idée de dire de normaliser une situation qui s'appelle le messiar, mais de dire voilà, c'est en attente d'une régularisation et d'une vie commune définitive.
C'est
bien ça. Donc là, effectivement, on peut pas parler de messiar, on va parler de situation provisoire basée sur un contexte, on va dire, compliqué qui demandait du temps pour être résolu. Donc là, effectivement, vous êtes en droit, puisque le délai dans lequel vous vous êtes positionné pour résoudre ce problème n'a pas résolu le problème, eh bien, vous pouvez effectivement demander à votre mari, tout simplement, de prononcer le talaq et de vous libérer de lui. Et voilà. Et si lui refuse, à ce moment-là, on le fait intervenir une autorité religieuse pour lui dire, monsieur, soit vous assumez une relation réelle et pérenne avec votre femme, ou soit vous la libérez, vous n'avez pas à la laisser suspendue. D'accord. Mais madame, en même temps, il faut pas vous donner à lui, quoi. Faut pas accepter. Si vous vous donnez à lui, c'est comme si vous acceptez la situation. Et lui, il va, parce que lui, tant qu'il aura envie de vous, hein, et que vous vous donnez à lui, bah, il va laisser les choses telles quelles. Mais si vous vous dites non, moi, je te donne pas à moi, tant que t'as pas résolu le problème, tant que t'as pas réglé le problème, là, il va se décarcasser pour régler le problème. Mais si vous non, c'est pas grave, je vais quand même avoir avec lui des relations, et ben, lui, il va dire, oh, bah, puisque j'ai ce que je veux, pourquoi aller m'enquiquiner à régler des problèmes qui sont, et des tracas que j'arrive pas à gérer.
Alors justement en parlant de ça, justement, je lui ai dit aujourd'hui, on a avant l'été, je lui ai dit maintenant il n'y aura plus aucune relation tant que les choses ne se font pas. Et il m'a dit je vais faire les choses, même la mairie. On devait faire la mairie là normalement le 27 novembre. Et il a encore trouvé, en fait, il se plaint de la situation, dit qu'on n'a pas de relation normale. Il se plaint en fait. Et en fait il me dit tu me fais du chantage, alors que c'est lui qui a accepté.
Ma sœur, gardez, continue à lui faire du chantage. Tu dis non, tant que j'ai pas mon mariage civil, tant qu'on n'a pas notre vie commune, tu ne m'auras pas. Je ne te donnerai pas à toi. Tu n'auras rien de moi tant qu'on n'aura pas une vie normale. Moi, je me suis engagé avec toi, non pas pour un zawaj messiar, mais pour un mariage normal, classique. C'est-à-dire avec une vie commune dans laquelle on vit ensemble sous le même toit. Si toi, t'as un projet de dire, voilà, tu veux juste profiter de moi après, dès que t'as terminé, tu me ranges dans le placard comme un vêtement. Non, je ne peux pas accepter ça.
Oui.
Voilà, c'est tout. Il faut lui dire clairement, tu ne m'auras pas. Je ne te donnerai pas ce que tu veux tant que toi, tu n'auras pas. Ce que je te demande, c'est pas illégitime, c'est pas l'impossible. Oui. C'est de vivre normalement avec son mari. Je demande à vivre avec mon mari et mon mari à vivre avec moi, comme tout le monde. Là, la situation n'est pas acceptable.
Il me dit, Imam, excusez-moi, il me dit, mais on a déjà été mariés, on a été divorcés, et il a vécu déjà un divorce. Il me dit, je veux pas revivre ça.
Eh ben, t'as pas envie de revivre ça, si t'as pas confiance en notre relation, ben, va voir ailleurs, laisse-moi tranquille. Si toi, t'as pas suffisamment confiance, dans notre relation, c'est pas la peine d'insister avec moi. Ah, mec, tu me veux, mais sans prendre de risque, voilà, du jour au lendemain, tu peux me jeter comme un chiffon, non? Ouais, moi, je suis pas un chiffon, tu viens t'essuyer, tu t'essuies sur, avec moi, et puis après, dès que t'as plus besoin, tu me jettes.
C'est ça.
Soit t'as confiance, on s'engage, on y va à fond, soit rien. Je suis pas un pantin, moi. Je suis pas un vêtement que tu ranges dans l'armoire. Ouais. Et le Coran utilise ce terme. Il dit al mu'allaqa, wa la tadharuha kal mu'allaqa. C'est en français, traduction de mu'allaqa, c'est suspendu. Celle qui est suspendue, comme un vêtement qu'on va mettre. Comment s'appelle le truc
Sécher.
Non. Comment on dit ce qu'on utilise pour attacher, pour mettre dans l'armoire là.
Un cintre,
voilà. Ouais. Comme une femme qui est accrochée à un cintre, voilà.
Ouais.
Non, mais c'est ce qu'il fait là avec vous.
Ouais.
Vous êtes un vêtement accroché à un cintre. De temps en temps, il vous sort, il jouit de votre, de vous, et ensuite, dès qu'il en a marre, hop, il vous remet dans l'armoire.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et c'est-à-dire chez vous, loin de lui.
D'animam, en fait. J'avais besoin, même si tous mes proches me disent tous la même chose, même mon fils, parce que c'est lui qui a été mon tuteur, puisque mon père l'a fait, moi, est décédé, et qui est grand, et en fait, il me dit pareil, il me dit, tu dois, toi, t'écouter toi.
Oui, sans indiscrétion, vous avez quel âge maintenant, madame?
Je vais avoir 46 ans.
Machallah, donc vous êtes une femme mûre, vous êtes une femme qui a suffisamment de maturité pour ne pas vous laisser naïvement manipuler par un homme. Il ne faut pas vous laisser manipuler. Et il faut, vous êtes en droit. Il y a des femmes qui acceptent le principe du missiar, qui disent, ouais, toi t'es chez toi, moi je suis chez moi, et voilà, on vit marié, femme et de loin, d'accord. Tu n'assumes rien vis-à-vis de moi, et toi tu n'as aucune autorité sur moi. Mais en même temps, je respecte, je suis fidèle, je suis une femme fidèle. Hein, si j'ai besoin, je t'appelle ou je viens te voir. Celle qui ne le souhaite pas et qui dit que cette situation n'est qu'une période provisoire, en attendant que les choses se résout, eh bien, à ce moment-là, non, on ne peut pas parler de messiar. On va parler simplement de situation exceptionnelle qui a pour but d'être de changer, de d'être corrigé.
Oui. D'accord.
Voilà.
D'accord. Bah, Allah merci beaucoup en tout cas.
Au revoir ma sœur. Qu'Allah
yassahel alayk. Merci Dalila. Alors on va prendre Shaima rapidement. Shaima, bonjour et bienvenue. Shaima.
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Salam alaykoum.
Oui, bonjour, salam alaikum.
Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban akhti.
كيف احوالكم؟
الحمد لله, مرحبا اختي.
مرحبا مبروك.
الله يبارك فيك اختي, مرحبا.
سلمك. C'est juste une question pour parler, moi j'étais toi.
Comment? Oui.
Par rapport à la religion. Allô?
Oui, oui, on vous écoute, c'est quoi la question?
Oui, alors la religion musulmane, c'est un peu difficile, il faut qu'on puisse poser des questions. Pour
allez-y madame, ne mettez pas d'introduction à votre question. Posez votre question, c'est quoi?
Oui, alors je suis j'étais avec quelqu'un et je suis ni divorcée ni mariée. Mais il est parti, je ne sais pas où est-ce qu'il est.
Non, vous êtes mariée mais suspendue, séparée. Vous êtes mariée, séparée.
Mariée, séparée. Non,
vous êtes mariée religieusement?
Attendez, parce que elle a dit je suis ni divorcée ni mariée. Donc
bah, c'est pas, ça, c'est pas possible, ça.
Vous êtes quoi alors?
Être ni l'un ni
l'autre. Expliquez-nous,
Shema. Oui, excusez-moi. J'étais mariée avec lui, avec le halal, le fetha et tout. Mais après, un an après, il m'a laissé, il est parti.
Donc voilà ce que je disais, vous êtes mariée, séparée. Vous êtes mariée religieusement. Ils avaient un contrat de mariage avec un homme, mais cet homme s'est séparé de vous, il est parti. Donc vous êtes mariée, séparée. Comprenez? Voilà, donc vous dites pas ni marié ni divorcé, c'est pas possible. On peut pas être mort et vivant en même temps, on peut pas être debout assis, c'est-à-dire c'est pas dire quelque chose, c'est son contraire. Marié ou divorcé, on peut pas être les deux. Okay. Vous êtes là dans l'état actuel des choses, vous avez le statut de femme mariée, mais en même temps comme votre mari ne vit pas avec vous sous le même toit, vous êtes donc séparés. D'accord?
Et voilà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Et il est parti.
Ouais.
Eh ben vous demandez une annulation de mariage. Vous l'appelez, est-ce qu'il est joignable d'abord? Est-ce qu'il est joignable?
Il est joignable. Oui, je sais pas.
Non, il est joignable ou pas? J'ai pas
non,
compris.
Non, on peut pas le joindre.
Est-ce qu'il a une famille?
Non, je connais pas, je sais pas.
Bah oui, madame, c'est ça, il faut se marier avec Wild Familia. Allez, Shahnangoulo. Pourquoi on dit il faut se marier avec les fils de famille? Ou là, les filles de famille? Parce que quand lui disparaît, eh ben, on peut encore, la famille, elle part pas, elle est là, elle est quand même garante, des engagements de cet homme. On sait qui il est, de quelle famille il est. On peut un jour, s'il essaye de s'échapper, d'assumer ses responsabilités, parce que lui-même ne peut pas s'échapper de ses origines, de ses racines. Notamment sa famille. Donc, s'il avait une famille, ça aurait été plus. Donc, moi, je conseille tout le monde, tout un chacun, hein, quand vous faites un choix de mariage, prenez en considération le fait qu'il soit quelqu'un de famille, qu'il a de la famille autour de lui, des frères, des sœurs, des parents, voilà, de la famille. Comme ça, il sait qu'un jour il sera obligé de prendre contact avec cette famille. Et là, à ce moment-là, vous pourrez vous retourner auprès de cette famille pour lui imposer d'assumer ses responsabilités. Alors là, en l'occurrence, c'est un électron libre. Il fait ce qu'il veut. Il peut disparaître comme un fantôme. Voilà, et on peut rien faire. C'est
mais
bien ça.
Qu'est-ce que je dois faire? Je vais rester comme ça?
Non. Non, bien sûr que non. Moi là, c'était un premier conseil, une petite parenthèse que je donnais pour nos auditeurs pour qu'ils fassent attention. Et comme la pause vient bientôt arriver, moi je vais répondre rapidement en vous disant ma sœur, simplement de contacter un imam, de lui demander d'intervenir auprès de cet homme s'il est pas joignable, vous ramenez des témoins que monsieur a bien quitté. Vous avez deux papiers ou des personnes verbalement qui disent, qui témoignent qu'effectivement cet homme a bien quitté le domicile depuis telle date. Il faut que ça soit au moins plus de 6 mois. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Vite, dites-moi, répondez. Hein?
Ça fait 3 ans.
3 ans. Et malakhlas, normalement, vous devez tout simplement annuler le mariage. Et voilà.
Bien, c'est pas simple, hein, les questions de couple. Ouais. Imam Abdelali.
Je donnerai un complément après la pause.
D'accord. Donc, et si vous avez des questions à poser, on va continuer. On va essayer de parler de la mer ce matin. Et vous avez des questions, bah, vous les posez au 01 53.
La mer MER.
On arrive. Oui, pas la belle mer.
Non, pas la mer à boire.
01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et nous parlons de la mer ce matin avec l'imam Abdelali Mamoun. Alors, quelles sont les règles juridiques spécifiques à la mer,
l'imam Abdelali? Alors, comme tout le monde sait, sur Terre, quand on est déjà sur Terre, on a des obligations religieuses, notamment le fait de faire ses prières. Eh bien, quand on est sur mer, on n'est pas exempté. On reste redevable d'accomplir ses devoirs religieux, notamment pour faire ses ablutions. Premièrement, il faut savoir que l'eau de la mer peut être utilisée pour faire ses ablutions. Al-hillu maytatuhu, disait le prophète, wa at-tahuru ma'uhu. C'est-à-dire que l'eau de la mer peut être utilisée pour se purifier et accomplir ses ablutions. Ça, c'est et même les grandes ablutions. Par exemple, j'ai eu des relations dans le bateau avec ma femme, et ben, je peux utiliser l'eau de la mer pour prendre ma douche, alors carrément prendre un bain dans l'eau, me laver dans la mer et puis sortir et il serait bon, je peux faire ma prière. J'aurais été purifié. Faire sa prière. Alors la difficulté dans la mer, c'est que le bateau bouge et donc quand on est dirigé vers la Mecque, l'eau bateau, le bateau quand il va bouger, ben on va forcément décaler par rapport à la Qibla. Eh bien, le musulman dans sa prière quand il est sur mer, il est obligé de se décaler. Dans la prière, il se décale au fur et à mesure que le bateau lui se décale de la Qibla. C'est-à-dire, si le bateau bouge de la direction de la Qibla, tu dois toi aussi bouger dans ta prière et voilà, faire le nécessaire pour être dans la bonne direction. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire? Par exemple, tout ce qui vient de la mer est halal. Hein, le Coran, justement, il y a un verset tout à l'heure qui disait...
Les crabes, les poissons, les serpents de mer...
Tout ce qui vient de la mer est halal, il n'y a aucun problème là-dessus. Attends, je retrouve le verset... وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. Et il a mis à votre disposition la mer afin de pouvoir manger sa chair tendrement, sa chair tendre. Donc tout ce qui est de la mer est halal, que ce soit les poulpes, que ce soit les fruits de mer, les coquillages, les crabes.
Même les huîtres.
Les huîtres, allons-y, les huîtres. Bon, faut pas qu'elles soient périmées, hein, des huîtres bonnes, des bonnes. Là où Philippe, il va m'inviter incessamment sous peu, quoi.
J'ai voulu vous tester, vous voilà. Dites que vous n'étiez pas très
les moules, fort sur les moules, c'est bon les moules. Ouais. Ben, les moules, c'est halal, même les animaux carnivores, même les mammifères. Par exemple, les dauphins, les baleines, tout ça qui sont des mammifères, eh bien, sont licites. Même les carnivores, les requins, par exemple, c'est halal. Il y a tout ce qui vient de la mer est halal. Al-hillu maytatuhu wa at-tahuru ma'hu. Voilà ce que dit le prophète. Et le Coran nous dit, wa sakhara lakum al-bahra lita'kulu minha lahman tariya, afin de pouvoir manger sa viande chère, sa viande tendre. Tariyan, ça veut dire tendre. Donc voilà, toute la mer est halal. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la mer? Ah oui, est-ce qu'il y a la zakat sur la pêche? La pêche, c'est-à-dire est-ce que les poissons que l'on va pêcher dans la mer, est-ce que l'on doit s'acquitter de la zakat? La réponse est oui, à condition que ça soit dans une démarche commerciale. Elle devient un produit commercial, donc une marchandise. Quand la pêche devient marchandise pour être vendue et il y a de l'argent, eh bien c'est sur cet argent-là que tu dois t'acquitter de 2,5% de ton capital tous les ans. Hein, 2,5% que tu dois reverser aux pauvres. Voilà. Donc, par contre, si c'est pour ta propre consommation, par exemple, tu vas pêcher à la ligne dans un à la mer, par exemple, tu prends un zodiac ou un bateau et tu vas pêcher pour manger toi ton petit repas de midi. Eh ben là, bien sûr, il n'y a pas de zakat. On parle de zakat quand des quantités sont importantes. Et là, à ce moment-là, effectivement, on doit. Et est-ce que si l'animal il sort vivant, est-ce que j'ai l'obligation de l'égorger avant de pouvoir le manger? La réponse est non. On n'est pas obligé d'égorger un poisson, même si on le fait cuire vivant, c'est-à-dire si on le met sur le feu vivant ou sur la poêle, on le jette dans le feu ou dans l'huile bouillante vivant, la viande est halal, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de règle qui est liée à l'abattage rituel, c'est-à-dire il n'y a pas d'abattage rituel concernant les poissons, les poissons et les animaux de la mer.
Aujourd'hui, on est quand même dans une époque où le bien-être animal est quand même quelque chose dont on prend conscience, Imam Abdelali.
Je sais pas, quand on voit aujourd'hui dans des restaurants étoilés des restaurateurs qui jettent des crabes vivants dans l'eau bouillante, je suis pas sûr que on se soucie du bien-être de l'animal. Ou quand on voit des restaurants chinois qui prennent des animaux à peine encore vivants, ils sont déjà en train de les découper au niveau de leur chair, alors que l'animal est encore en train de bouger et qui ressent la douleur. Moi, parce qu'on n'entend pas de bruit, alors on se dit il y a rien. Quand on n'entend rien, c'est qu'il y a rien, il y a pas de douleur. Maintenant, je pense que l'islam dit que c'est vrai qu'il est important de tuer l'animal. On le tue, faut le tuer, faut donner peut-être un coup de marteau, s'assurer qu'il est bien assommé, et après on le découpe et on le fait cuire, on le mange. Mais on doit pas effectivement faire souffrir un animal. Le Coran nous proscrit, l'islam nous interdit de faire souffrir les animaux. Donc tant qu'il est vivant, il faut éviter de le faire souffrir. Donc s'assurer qu'il meure rapidement pour éviter que il souffre au moment de mourir. Et notamment par des douleurs atroces, par l'eau bouillante, l'huile bouillante, etc., etc.
Qui était Imam Abdelali des premiers marins musulmans?
Ah, bonne question. Alors, les marins, les premiers, tout premiers marins de l'islam étaient les musulmans que le prophète a envoyés en Éthiopie. Tu sais que ce qu'on appelle la hijra vers l'Éthiopie, hein, la hijra ila al-Habasha. En arabe, l'Éthiopie ou l'Érythrée, ça s'appelle l'Éthiopie. En arabe, on dit le Habasha. Ce sont ces premiers réfugiés, puisqu'on appelle ça des réfugiés, qui ont fui la tyrannie des Mécois, ont été les premiers à monter dans un bateau pour Allah, c'est-à-dire pour fisabilillah, dans la cause de Dieu, pour fuir la tyrannie parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et ensuite, les musulmans ont commencé petit à petit, après la conquête de la Mecque, de l'Arabie, bah, ils ont élargi leur champ de conquête vers les territoires qui étaient séparés par de l'eau, notamment l'Afrique de l'Est, hein, notamment toute la partie de l'Est de qui est au sud de la péninsule arabique, le Zanzibar, Mayotte, les Comores, etc. Toutes ces îles-là, et puis bien sûr la côte africaine. Et puis, bien entendu, la Méditerranée, qui petit à petit va être conquise île après île, notamment Crète, Rhodes, etc., Chypre. La première, c'est Chypre, hein, à l'époque déjà du calife Othman. C'est Chypre, l'île qui va être conquise par les musulmans. Donc, il va y avoir des batailles navales entre bateaux ennemis et bateaux de l'armée musulmane. Il y a une grande bataille qui est très connue, qu'on appelle la bataille d'Emma. Hein, tu sais, les mâts, ça veut dire les fameux poteaux qui ouais, permettent de suspendre des voiles. On appelle ça en arabe sawari. Hein, on dit la bataille ma'arakat dhat sawari, la bataille des mâts. La bataille des mâts qui va être une grande victoire pour les musulmans qui vont permettre la conquête de Chypre. Il y a même une compagnon du prophète qui va mourir en descendant du bateau qui lui permettra d'arriver d'escale sur l'île de Chypre. Elle va mourir dès son arrivée. C'est une femme que le prophète aura prédit bien longtemps avant, en disant toi tu mourras à cheval en descendant sur dans la mer, c'est de la mer vers la terre. Et elle va mourir, cette femme là je reviendrai sur son nom plus tard. Est-ce que c'est Haram? Je crois que c'est Haram. Cette femme-là va mourir et va être enterrée dans l'île de Chypre. Et donc les musulmans vont petit à petit envahir toute la Méditerranée, vont contrôler toute la Méditerranée, notamment l'Empire ottoman, hein, avec le fameux Barberousse. On dit Barberousse le pirate, le corsaire. C'est totalement faux. C'était un général d'une armée régulière.
Ils étaient deux. C'était les frères Barberousse.
Oui, les frères Barberousse.
Arouj et Khairedine.
Khairedine. Tout à fait. Voilà, donc en tout cas, ce sont des généraux de l'armée ottomane, du sultan Souleyman le Magnifique, qui vont aider François Ier. Il faut rappeler qu'à l'époque, ils sont alliés avec la France, oui, contre Charles Quint, qui avait envahi toute l'Europe avec son armée et avait imposé son pouvoir et son empire sur toute ce qu'on appelle l'Empire, le Saint-Empire germanique, qui s'est allé jusqu'en Espagne. Et au milieu, vous avez la France qui était un petit peu embarrassée parce que son roi, le pauvre François, a une fois gagné la bataille, certes, Marignan 1515, hein, mais a perdu dans je ne sais plus quelle ville, un peu plus loin, il y a quelques années plus tard. Il est fait prisonnier. Donc tout ça va pousser la mère de François Ier à demander de l'aide à Souleyman le Magnifique. Et effectivement, il va accoster à Marseille, à Toulon, et il va même envahir des villes italiennes, plus une multitude de villes, et va donc vaincre l'armée de Charlemagne, de Charles Quint, Charles Quint qui veut dire Charles V, hein, qui était le fameux empereur du Saint-Empire germanique. Et donc ces marins musulmans qui maîtriseront et qui domineront toute la Méditerranée vont aider François Ier. Et ça, il faut pas l'oublier, que l'histoire de l'islam avec la France, eh bien elle a été on l'a souvent, il y a eu un déni de cette relation entre l'islam et l'Empire occident. Charlemagne par exemple, qui avait de très bons rapports avec Harun al-Rashid, et j'en passe des meilleurs parce que là j'aurais pas le temps de tout détailler. Mais les musulmans, effectivement, ont dominé la Méditerranée. Et pour terminer, ça sera l'épilogue, ce sont les Américains, finalement, qui vont provoquer la chute de cette domination et de cette, on va dire, de ce pouvoir qu'avaient les musulmans sur la Méditerranée, parce qu'ils sont venus avec leur armada américaine en l'an 1815. En 1815, peu avant que les que les Européens viennent envahir l'Afrique du Nord, hein, l'Égypte, l'Algérie en 1830, la colonisation, ce qu'on appelle la colonisation anglaise et française, va se faire après la chute de l'Empire Ottoman grâce aux Américains. Ce sont les Américains qui vont bombarder la baie d'Alger et vont détruire l'armada turque sur la baie d'Alger, mais aussi la bataille de Navarin plus loin à côté de la Grèce, qui va totalement anéantir avec les Français, les Anglais, les Russes, les Américains, tout le monde s'y met contre les Ottomans et finalement laisser place au pouvoir et aux Occidentaux sur la Méditerranée. Et ça sera la fin de la domination de la Méditerranée par les musulmans.
Bon, il y a Franck Ferrand et puis il y a l'imam Abdelali Mamoun hein, pour vous raconter l'histoire.
Ah ouais, c'est passionnant. J'essaye avec le peu de temps que j'ai d'essayer d'être succinct, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si j'avais le temps, alors là, on débiterait. Mon numéro 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. C'est ce numéro-là qu'il faut utiliser pour s'inscrire pour la Umrah hein, que j'organise à la fin pendant les vacances de fin d'année scolaire. Du 20 décembre au 1er janvier, Inch'Allah. Donc, mon numéro 06 29 25 35 00. Aussi, le Hajj, le Umrah par délégation aussi, j'organise. Ceux qui veulent faire une Umrah pour une personne décédée. Wallahu alam, wassalamu alaikum.